à celles et ceux qui rient du bout des lèvres dans leur barbe, qu'ils en aient une ou pas. Et puis il y a les autres, pour qui c'est plus difficile à cacher, j'en suis. Ceux qui rient comme des fous, qui vont jusqu'à s'en étrangler, s'en étouffer, ou même à en crever, c'est le rire aux éclats, le rire aux larmes à gorge déployée, mais aussi, comme on le disait autrefois, à gorge rompue. Ce qui me frappe toujours, vous l'avez compris, c'est moins le son que la convulsion, les sursauts, la saccade, les soubresauts depuis le visage qui grimace jusqu'aux secousses du corps tout entier. On rit à ventre déboutonné, on se tord de rire, et tout repose sur cette torsion, j'ai l'impression. C'est comme ça qu'on le provoque, le rire, en tordant quelque chose, la réalité qu'on exagère, le monde dont on force les traits, les mots qu'on met sens dessus-dessous. Il s'agit toujours de tourner, de contourner, de détourner, souvent de déformer au point de provoquer cette déformation du corps. On se tord dans tous les sens pendant un bon moment, et puis soudain, on se détend. Les convulsions se calment, on retrouve sa respiration, on se décontracte, on est comme apaisé, comme si le rire avait permis de remettre les choses en place. La réalité, le monde, le langage, c'est comme ça que je le vois, le rire, on tord quelque chose pour remettre droit.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui. Il y a les moyens de vous tordre de rire, hein. Avec ses acolytes des inconnus, il a marqué les années 90 à coups de parodies désopilantes, et depuis il n'a jamais quitté le haut de l'affiche. Il sera le 9 mars le héros de Permis de construire, un film d'Eric Fraticelli, l'histoire de deux hommes, l'un continental, l'autre corse, séparés par leurs préjugés et qui finissent naturellement par se rencontrer. Bonjour Didier Bourdon.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors avant toute chose, qu'est-ce qui vous tord de rire, tiens vous?
Très joli texte, hein. Oui, non, sur la torsion, c'est vrai que je réfléchissais, je pense que il y a un rapport avec le comique, c'est quand on écrivait les sketchs, en général, ils étaient trop longs, il fallait le tordre un petit peu comme un torchon, vous savez, pour essayer de le rendre le moins humide possible, pour essayer de garder la substantifique moelle, comme on dit. Et c'est vrai qu'un sketch ne doit pas dépasser tant de minutes, alors sauf certains sujets, bien évidemment. Mais souvent, on était un petit peu, quand on a découvert un petit peu le métier, on était un petit peu déçus, un peu triste de se dire, tiens merde, on aurait pu garder ça. Non, à un moment donné, ça s'imposait, il fallait garder cette torsion. Voilà.
Et cette idée, Didier Bourdon, de tordre le langage pour le remettre droit, je sais que c'est une expression que vous aimez bien.
Oui, ben, c'est pour ça qu'on a inventé d'ailleurs aussi des expressions. Je sais pas pourquoi, je pense à Toscan s'est planté. Un petit hommage à Toscan du Planté qui nous a quittés maintenant il y a 19 ans déjà. Oui, avec le côté bouleversifiant, par exemple. C'est vrai que quand on invente le mot bouleversifiant, je trouvais qu'il représentait plus ce qu'on voulait dire que bouleversant.
Ça veut dire que le langage a besoin quelquefois d'être redressé.
Ah oui, ben, je pense que c'est là où on peut faire un parallèle avec la poésie, hein. Bien évidemment. En chanson, on va pas parler de rap ou de slam, mais là, il a aussi tort de langage et souvent de très belles manières. Et les poètes, voilà, moi j'aime beaucoup la poésie parce qu'il y a un parallèle avec le comique dans le sens où ils tordent soit les mots, soit carrément, je pense bien évidemment au fameux rejet qu'on peut trouver dans des poésies très connues comme le dormeur du Val, par exemple. C'est vrai que d'un seul coup, ils tordent le langage et ça réveille.
Vous savez, c'est ça qui me fascine avec vous, Didier Bourdon, c'est l'attention constante que vous accordez aux mots dans l'exercice de votre métier, de votre passion aussi. Les mots, comment est-ce qu'ils sont entrés dans votre vie?
Oh, je pense par mes professeurs aussi, par mes parents. Mon père était un grand lecteur, ma mère aussi d'ailleurs. Ma mère n'avait pas les mêmes goûts, elle aimait bien Zola, d'ailleurs je lui dis bonjour, je pense qu'elle doit écouter. Moi j'ai jamais trouvé mes Zola, je préfère Stendhal et Balzac, mais moi c'était les disputes familiales de l'époque, entre guillemets. Après j'ai un frère qui est un grand littéraire aussi, voilà, c'est vrai que le plaisir des mots, très très tôt.
Et je suppose que ça guide vos choix de scénario au cinéma, mais aussi votre écriture. C'est quoi pour vous une comédie bien écrite? À quoi ça tient? Je vous pose la question parce qu'il se trouve que vous êtes aussi scénariste et que vous avez même un petit peu collaboré à l'écriture de ce film, Permis de construire.
Oui, alors Permis de construire, là, j'ai plutôt un peu aidé Eric Fraticelli, c'est son premier rôle. Et c'est vrai que là, c'était plutôt en tant que conseiller, on va dire. Mais quand on écrivait, là dernièrement, on avait passé le film Les Rois Mages, ça je sais qu'on s'était bien amusé avec Bernard et Pascal pour vraiment retravailler le texte, puisque ce sont des gens qui viennent d'une certaine antiquité, donc c'était ça un petit peu, c'est un fantasme, hein, bien évidemment, ce film, mais voilà, l'écriture, essayer de se replonger un petit peu dans la culture antique, et d'ailleurs on s'est documenté, ça a été très agréable, ça m'a rappelé.
Le rire, c'est quelque chose qui s'écrit à plusieurs, pour vous?
Pas forcément, mais disons qu'un scénario, oui. Moi, je me méfie des scénarios écrits tout seul. Même Stanley Kubrick avait quelqu'un qui l'aidait, hein, ou alors il s'inspirait d'un roman. J'ai du mal. C'est vraiment, pour moi, un scénario, c'est un petit peu comme une maison, un immeuble, c'est plus ça a rapport avec l'architecture. On a besoin vraiment d'être aidé par plusieurs corps de métier.
Vous savez, à chaque fois que j'ai reçu à ce micro un humoriste, un acteur ou un réalisateur de comédie, il finit toujours par me dire qu'il n'y a rien de plus difficile que de faire rire. Pourquoi c'est si difficile au fond, Didier Bourdon ?
Parce que la vie est triste, monsieur.
Quand est-ce que vous l'avez compris, ça ? À la fois que la vie était triste et que c'était difficile d'écrire des comédies.
Je m'appelle Bourdon, alors déjà, j'étais peut-être un petit peu conditionné. Ah ben ça, cette sensibilité-là, oui, ça je l'ai eu très tôt, oui, c'est sûr.
Bourdon pour l'abeille qui bourdonne.
Et puis aussi avoir le bourdon.
Avoir le bourdon, oui. C'est d'autant plus intéressant que de vous entendre sur ce sujet que vous avez une formation d'acteur classique, puisque vous avez étudié l'art dramatique au conservatoire, avec Anne Consigny notamment, que vous retrouvez dans Permis de construire.
Exactement.
Qu'est-ce que vous avez eu le sentiment d'apprendre au conservatoire? D'ailleurs, quelle école est-ce que ça a été, ça?
Ça, c'est drôle. Écoutez, c'est surtout mon professeur d'art dramatique de Saint-Germain-en-Laye, qui s'appelait Jacqueline Jabour, qui a eu comme élève d'ailleurs Eric Elsmosnino, entre autres, Vladimir Yordanov, qui nous a quittés aussi, le pauvre, j'aimais beaucoup, et qui était un excellent professeur et qui m'a fait découvrir aussi des textes que je ne connaissais pas, etc., etc., pour aller vite. Et après, j'ai fait un an à la Rue Blanche, qui était vraiment à la Rue Blanche à l'époque, et ensuite le Conservatoire de Paris. Et j'avoue que le Conservatoire de Paris, ça a été plutôt la rencontre de copains qui le sont restés. J'avais Gilbert Sigaud, qui était un homme formidable, qui m'a appris le texte, et qui nous a fait décortiquer les textes, et qui nous a raconté aussi l'histoire du théâtre français. C'est un mec formidable.
Mais vous percevez déjà comme un acteur de comédie, là-bas?
Alors moi je faisais tout, là. C'est-à-dire qu'un acteur, moi je me considère, bien sûr, la comédie a été vraiment sur mon chemin. Au départ, c'était pas du tout prévu. J'étais plutôt d'ailleurs dans des rôles, pour ma sortie de conservatoire, j'ai pris l'Impromptu de Versailles de Molière et l'Amant de Harold Pinter. Donc vous voyez, c'est ça qui est bien aussi, c'est de pouvoir mélanger les styles. Mais vous savez, la comédie, pour moi, c'est vraiment de la tragédie qui fait rire, quoi. C'est pour ça que Molière est un auteur extraordinaire. C'est que l'autre fois, je lisais à nouveau Le Médecin malgré lui. D'ailleurs, c'est une pièce que j'avais jouée quand j'étais à la Rue Blanche pour la première fois. Mais je jouais le rôle du jeune premier à l'époque. Et ma petite fille de 11 ans donc étudie et je relisais le texte. Mais en fait, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que quand on commence à avoir compris quelque chose, il y a une autre idée qui arrive. Et alors, au début, c'est quand même... Il frappe sa femme et tout, enfin c'est d'une modernité, la femme ne se laisse pas faire. Je me dis, putain, ça pourrait être presque écrit aujourd'hui, c'est extraordinaire ce type.
Et la comédie française, Didier Bourdon, qu'on présente souvent comme la suite logique du parcours d'un étudiant au conservatoire, ça vous est rêvé ça? Vous y avez songé?
Non, on a songé pour moi, c'est-à-dire j'ai failli rentrer, c'était François Chaumette qui voulait que je rentre. Et en fait, j'avais pas mal de copains qui... Enfin non... J'avais des amis qui étaient rentrés, enfin parce que au conservatoire c'est sur 3 ans, donc, et comme j'ai fait mon service militaire entre temps, donc c'était sur 4 ans, et je sais qu'ils étaient très malheureux. Et c'était une époque où la comédie française, dans le début des années 80, était pas très en forme. Il y a plein de gens qui partaient, Francis Huster, Richard Berry, enfin il y avait une mauvaise ambiance. Et en plus à l'époque, quand on rentrait au Français, on pouvait pas, comme aujourd'hui Podalides ou d'autres acteurs du Français, pouvoir tourner à droite à gauche à l'extérieur. C'était très sérieux.
Mais vous faites un pari à ce moment-là, le pari quand même du café-théâtre, emprunter cette voie-là.
Oui, j'ai eu peur un peu, hein. Enfin peur, oui, c'était un peu une période, surtout j'étais jeune papa et je gagnais pas de sous et mes parents commençaient à douter et il y a eu ce théâtre de Bouvard qui m'a permis de gagner un petit peu ma vie, de le mettre de côté, d'être tranquille en me disant voilà, je vais pouvoir faire ma passion.
Et puis j'ai l'impression que vous aviez toujours cherché à rester dans les clous. Là, soudain, c'est quand même un départ beaucoup moins conventionnel, beaucoup moins classique.
Ah, au conservatoire, on restait pas dans les clous. J'ai fait des conneries au conservatoire.
Quelles conneries?
J'avais un professeur que j'aimais beaucoup, Robert Manuel, qui était un acteur, je pense que les gens s'en souviennent. Et là, on pouvait faire n'importe quoi. J'ai fait du Molière en me roulant par terre, en imitant les classes de vitesse ou les classes de débauche. J'ai monté aussi La Mort de Woody Allen avec un acteur qui nous a quittés. C'était Yvan Burger, qui était au théâtre de Bouvard, il nous a quittés il y a 30 ans, le pauvre. C'était une pièce un petit peu originale pour le conservatoire. Non, vous pensez pas. Non, c'était, on n'était pas des. Si on fait ce métier-là, c'est pas pour. Sinon, j'aurais fait une école de journaliste.
Vous savez qu'il y en a une qui se roule par terre en jouant du Molière dans cette émission. Vous la connaissez sans doute, Didier, c'est la culture et son actualité qui décidément ne respecte rien. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 5 janvier?
Qui êtes-vous?
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.
400 ans, toujours mordant, on en parlait à l'occasion de l'anniversaire de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Le château de Versailles multiplie célébrations, expositions, représentations. Jusqu'au 22 juin prochain, la salle de l'Opéra Royal au sein du château propose un cycle de comédie-ballet et de concerts inaugurés avec Dandin ou le Mari confondu, pièce musicale en trois actes, signée Molière et Lully, mise en scène par Michel Faux. Le Malade imaginaire avec Guillaume Gallienne ou Le bourgeois gentilhomme par Denis Podalydès sont attendus aussi. C'est joli.
Tu sais, Sébastien, j'ai bien réfléchi. Le mieux, c'est qu'on se sépare. Peut-être seulement quelques semaines, le temps de réfléchir chacun de notre côté.
Tout Rivette à la Cinémathèque. L'institution parisienne inaugure aujourd'hui Jacques Rivette, cinéaste nécessaire pour aujourd'hui. Une grande rétrospective consacrée au cinéaste de la Nouvelle Vague, disparu en 2016. Au programme, près d'une quarantaine de films, parmi lesquels L'Amour fou, La Belle Noiseuse ou Paris nous appartient, mais aussi des rencontres, des hommages, des conférences, avec notamment Jeanne Balibar, Jacques Bonafé, Pascal Bonitzer. Une rétrospective qui sera prolongée dès le 12 janvier dans plusieurs salles de ciné partout en France. Tout le monde debout pour que la fête recommence. Dans une lettre ouverte mise en ligne hier, le syndicat des musiques actuelles s'oppose aux nouvelles restrictions gouvernementales concernant le monde de la musique live. Avec le retour des jauges qui a déjà entraîné l'annulation de plusieurs concerts, notamment d'Orelsan, d'Eddie de Préto ou d'Alain Souchon, le SMA dénonce la stigmatisation du secteur et demande la reprise des concerts debout en s'appuyant sur les résultats des concerts tests qui laissent penser que les salles de spectacle ne sont pas des lieux de contamination. Pression.
Do you really want to see my boobs?
Can I touch them?
See you tomorrow.
Et enfin, mercredi de cinéma sans pop-corn, mais mercredi de cinéma quand même, car aujourd'hui, dans les salles, on prend une grande part de Licorice Pizza, la nouvelle livraison de l'américain Paul Thomas Anderson, notre invité hier. Entre fantasmes stylisés et références 70s, le film orchestre, le chassé-croisé amoureux entre un adolescent et une jeune femme, dans une Californie vintage et magnifiée, c'est désopilant, c'est envoûtant, c'est en mouvement, c'est grand et c'est recommandé par Boomerang, évidemment. Didier Bourdon, invité de Boomerang ce matin, pour Permis de construire, notamment en salle, donc le 9 mars, comédie qui, comme souvent, raconte la manière dont deux individus que tout oppose en apparence vont surmonter les préjugés qu'ils ont l'un envers l'autre. Et je me suis demandé, avec quelle grande comédie populaire est-ce que vous avez grandi, vous? Quels sont les modèles du genre?
Il y en a eu plein, mais disons que je me souviens de sortir au cinéma pour aller voir La Grande Vadrouille, c'est ça, c'est la fin des années 60.
Et quelle scène vous revient immédiatement à l'esprit?
La Grande Vadrouille, c'est le duo aussi, surtout, et puis il y a deux grands acteurs. Oui, il y a une scène, quand il tremble devant l'Allemand. Je pense que ça doit résumer un petit peu ce que j'aime dans le comique, c'est-à-dire qu'on rigole et en même temps le fond est plus que dramatique. Et d'ailleurs l'Allemand joue très très sincèrement, il joue pas le gugus. Et en face, on a Bourville et De Funès qui sont remarquables de sincérité. Donc.
Mais ça peut peut-être faire plus que la comédie. Je me demandais, est-ce que ça m'intéresse ce que vous disiez sur tragédie et comédie. Je me demande si ça va pas nous rendre meilleurs. Se pourrait-il que le cinéma et particulièrement la comédie ait le pouvoir de nous rendre meilleurs en nous invitant sans cesse à nous remettre en question, par exemple?
Ah oui, tout à fait. Dans Le Banquet, je vous invite à relire la fin du Banquet où Socrate parle de la tragédie, de la comédie, dit que c'est la même chose. Et ça se finit d'ailleurs, c'est pas, hélas, on voudrait connaître la suite. Mais c'est ce qu'on lui prête, ces propos-là. Et oui, ça rend meilleur. Tout à l'heure, dans votre joli texte, là, vous avez dit qu'on se sent mieux après un bon rire, un rire où on se tord de rire, c'est-à-dire peut-être qu'on se nettoie aussi, c'est une sorte de catharsis, hein, y a rien à faire. C'est ce qu'on a essayé de faire, nous.
Vous vous remettez beaucoup en question, vous?
Tout le temps, monsieur Trappenard.
Sur quel plan, à quel niveau?
Artistique, bien sûr, au point de vue travail. Après, sur la vie, j'essaie de prendre du recul. La philosophie est un travail quotidien, c'est difficile. Je crois qu'hors antenne, on a parlé de nos fêtes qui ont été un petit peu gâchées par un petit virus.
Bien gâchées.
Donc il y a des moments où d'un seul coup, j'étais vraiment au fond du trou. Puis je me suis dit, ah non, et même ma propre mère me disait, c'est pas grave, ça va, on remettra ça. Donc voilà, c'est essayer d'être un petit peu au-dessus des choses, mais en même temps, être trop loin, c'est pas bien non plus.
Je pense à des étapes, par exemple, vous nous racontiez quand vous avez choisi de partir pour le Café Théâtre. Je pense aussi, par exemple, quand le trio que vous formiez avec Bernard Campan et Pascal Légitimus s'est dissous. Quelle question est-ce qu'il a fallu se poser à ce moment-là?
Ça s'est dissous normalement, parce qu'on avait fait énormément de choses ensemble. Non, ce qui a été difficile, c'est de partir du Théâtre de Bouvard, parce que on sentait qu'on était piégé, et Philippe Bouvard nous avait bien fait comprendre que du jour au lendemain, on allait se retrouver sans le sou, hein, ça, je me souviens très bien. Donc ça, c'était des périodes difficiles. Et souvent, les moments importants dans ma vie, et je peux le dire des jeunes artistes, c'est de savoir dire non. C'est c'est pas toujours facile, hein. Même au conservatoire, j'ai un professeur qui m'avait proposé Néron dans Britannicus, et j'avais déjà fait 2-3 spectacles avec lui, je sentais que j'étouffais, et je me souviens de cette conversation au conservatoire, j'étais malheureux, mais je sentais qu'il fallait que je dise non. Voilà. C'est des moments difficiles, ça.
Avec les inconnus, vous avez dit non aussi?
Ah, bon, on a dit non à plein de trucs. On a dit non à la publicité qui nous permettait de gagner en une semaine ce qu'on avait gagné en 3 ans de travail sur Les Trois Frères, mais j'en suis fier aujourd'hui. On a dit non aussi à une quotidienne sur TF1 parce qu'on s'est dit on va perdre notre âme, même si le contrat était très alléchant. Et ça, c'est pas. Attention, je roule pas les mécaniques. On a hésité, mais aujourd'hui, je peux dire vraiment qu'on est content d'avoir dit non.
Vous les re-regardez aujourd'hui?
Les sketchs, oui, c'est ce que je vous disais. Oui, je les regarde depuis 4-5 ans. Je regarde les sketchs. Avant, je les regardais pas trop parce que je les ai tellement regardés en montage et tout que je voulais voilà, que ce soit...
Et maintenant que vous les regardez avec le recul, qu'est-ce que vous avez l'impression, Didier Bourdon, d'avoir construit avec cette troupe, en fait, hein?
Alors, surtout, vraiment l'impression que j'ai, c'est que le nombre de sketchs qu'on a pu faire en 2 ans, quoi.
Ah bah, c'est...
Ça, j'avoue que je suis un petit peu... J'ai dit, tiens, on a fait celui-là, on a fait celui-là. Et sur une période de 2 ans, quoi. Donc, on était très, très dynamique à l'époque.
Vous savez que c'est la première fois qu'on reçoit un inconnu dans cette émission, Didier? La première fois.
Oui, oui, tout à fait.
Ah bah, on n'allait quand même pas se priver d'un petit florilège.
Aïe, aïe, aïe.
Bien sûr qu'avec Télémagouille, on en a
plein les fouilles.
Formidable. Première question. Qui a immortalisé
Stéphanie de Monaco?
Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Bleu les yeux, Isabelle.
Voilà, on se retrouve sur le plateau de Tournéménage. Alors, on va commencer avec Jean-Pierre. Une première question pour Ingrid.
Bonjour, Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises?
Oh là!
Hôtel et Ipassi, c'est pas du gâteau. Hôtel et Ipassi, tel est notre ghetto.
Youpi matin, de bon matin, youpi matin, youpi.
Bonjour, William. Quel plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui n'auraient pas de hachoir électrique, bien manipulé, bien sûr, le hachoir à main.
J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal.
Mais tu dis que le bonheur est irréductible.
Ouais, Manu, tu descends?
Pourquoi faire?
Ben je sais pas moi, descends.
Pourquoi faire?
Que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués.
Avec ou sans patate?
Sans patate!
Et vice versa.
Je sors à la guillette, sans bref, c'est typique du bourgeonnois.
Et vice versa.
Choupette, choupette.
Au-delà du fait que vous en ayez fait beaucoup des sketchs avec les inconnus, Didier Bourdon, comment est-ce que vous expliquez qu'il continue à faire mouche?
C'est un jeu de mots avec Bourdon. je sais pas, là j'avoue que c'est peut-être le compliment qui me touche le plus, c'est quand je vois des jeunes gens de 16-18 ans qui m'arrêtent dans la rue en me disant
c'est ça.
Oh, putain, c'est formidable, on adore, on peut prendre une photo.
Ouais. Ah, vous faites bien le jeune.
Oui, ça fait.
À quoi ça tient un sketch qui vieillit bien ou qui vieillit mal?
Ça, je peux pas vous dire. Alors là, je sais pas. Franchement, je pense que ça vient un petit peu du texte que vous disiez en début de cette émission. Je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec une torsion intérieure, c'est-à-dire on sent que c'est pas pour plaire aux gens, c'est d'abord pour nous soulager de quelque chose. Moi, je sais quand on a fait pas mal de sketchs, même politiques ou même par exemple la chanson La Vice Versa, ben c'est voilà, il y avait un truc qui nous énervait dans certains groupes, et en même temps il y a quelque chose qui nous plaisait bien aussi. Donc on a fait une chanson qui plaît au premier, au deuxième degré.
Et oui, parce que le pastiche c'est toujours un peu un hommage quand même.
Exactement.
Et ça vous prenait combien de temps un sketch à l'époque?
Ah, je sais pas, c'est une bonne question. Je sais qu'on en jetait pas mal à la poubelle. On avait quand même aussi vraiment une chance, c'est qu'on pouvait avoir 3 mois pour travailler l'émission. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même mieux que...
Et vous vous nourrissiez de quoi? De l'actualité?
Oui, on les trois, on est très curieux, très, très ouverts à tout.
De vous pas... aussi, de vous-même?
Moins, c'est moins intéressant. non, de l'extérieur, c'est certain. Moi, ça m'arrivait, ça je me souviens très bien, de me réveiller, ça doit vous arriver aussi, mais à 3h du matin, de noter des choses, en disant, tiens, c'est une bonne idée. Après, parfois, le matin, quand on lisait les notes, il y avait pas mal de choses à jeter, mais voilà, il y avait une sorte d'enthousiasme. L'enthousiasme, il y a le mot divin dedans, hein. Il y a vraiment, on était... C'est pour ça qu'en 2 ans, on a énormément travaillé, parce que pour nous, c'était pas du travail, c'était une passion, quoi.
Mais ça m'intéresse ce que vous dites. Vous dites, moi, c'est moins intéressant. Ça veut dire que vous mettez rien de vous dans un rôle, Didier Bourdon?
Ah, je parle pas de l'acteur, hein, attention. Là, je parlais de l'écriture. Pour un acteur, au contraire, faut quand même, bien évidemment, comme les beaux rôles sont souvent des rôles de minables, on peut y mettre un peu de soi, parce qu'on trouvera toujours quelque chose à mettre dans les personnages, essayer de trouver ses failles, d'essayer de retrouver des failles. D'ailleurs, le travail d'acteur, c'est un joli, on pourra en faire toute une émission, bien évidemment, c'est d'essayer un petit peu cette équation, essayer d'aller vers le personnage, mais que le personnage aille un petit peu vers vous, bien évidemment.
Oui, je pense par exemple à votre personnage dans Permis de construire, justement, c'est un homme qui apprend la mort de son père, cette émotion face à la disparition d'un père, c'est quelque chose que vous connaissez?
Oui, en plus, par rapport à la Corse, bien évidemment, ça m'a touché, parce qu'on a une scène où on lance les cendres de mon père, et mon père a beaucoup aimé la Corse, et il est parti, et c'est quelque chose qui m'a bien évidemment ébranlé, hein, ce sont des moments difficiles de la vie. Ouais, c'est de trouver des choses. Après, c'est un juste équilibre, hein, c'est pas moi non plus, hein, dans le film, c'est un autre personnage. Mais sa sensibilité, oui, essayer de puiser.
Quel père est-ce que vous avez eu? Didier Bourdon.
J'ai eu un père formidable. J'ai eu un père un peu sévère au départ, mais dans le bon sens du terme. Et puis après, je sais que à la fin, quand il a connu mon succès, il était vraiment fier de moi. Je le sentais.
Et voilà. Qui a participé à votre carrière, qui vous a sensibilisé aux arts, au théâtre, à la musique?
Oui et non. C'est-à-dire après ma carrière, bien évidemment, je l'ai construite tout seul et avec mes amis de l'époque. Après le jugement de mon père, bien évidemment, mais il n'osait pas trop s'immiscer. Mais c'est surtout dans la formation. C'était un homme cultivé. Il a fait des lettres, j'ai fait du latin et du grec, et je m'en réjouis parce que ça m'a fait découvrir plein de choses. Il exigeait une certaine, il avait une exigence dans le travail. Et voilà, heureusement, il y avait ma maman pour adoucir un peu tout ça, mais il était un petit peu, il était pas trop dur, mais il était sévère. Oula.
On va reparler ensemble de justesse et de torsion après un titre que vous avez souhaité nous faire entendre ce matin, les Pink Floyd, Wish You Were Here. Sur l'album du même nom en 1975, on l'a reconnu. Vous êtes sur France Inter avec Didier Bourdon. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
So you think you can tell heaven from hell? Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell?
Boomerang, Augustin.
Augustin Trapenard.
C'est vrai qu'on est quelque part entre le bourdon et Papa Ours. Hein. Il a le regard pot de miel, l'œil qui frise, la lèvre qui zonzonne, le poil brillant. L'imagine volontiers paré d'un costume rayé avec des petites ailes graciles, à butiner les fleurs des champs, en se léchant les babines en se frottant le ventre, tout en chemise à pois. Ce matin, Didier Bourdon, invité de Boomerang, pour explorer les diverses facettes quand même de votre parcours. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce morceau des Pink Floyd, Wish You Were Here. Quand j'entends ce morceau, moi, ce que j'entends d'abord, c'est quand même la guitare. Quel instrument est-ce que c'est pour vous, la guitare, Didier ?
Oui, la guitare, ça a été un instrument que j'ai embrassé assez jeune, et j'ai failli d'ailleurs devenir guitariste parce que ça me passionnait, mais bon, après il a fallu faire un choix et j'ai choisi de faire l'art dramatique tout en gardant quand même ma guitare près de moi.
Mais pourquoi la guitare plutôt que la flûte à bec? C'est une question que je me pose quand même souvent.
Alors là, bonne question.
Oui.
Flûte à bec, ça, je sais que c'est assez limité encore que...
Voilà, et ça y est, toujours la stigmatisation de la flûte à bec.
Mais non, mais il y a la flûte traversière aussi avec.
Non, mais toujours.
On se l'a dit, moi, j'ai mon meilleur ami musicien, il était flûtiste, donc... Mais vous savez, les bons musiciens, après, ils savent jouer plein d'instruments. Moi, j'adore les musiciens quand ils disent non, je suis que guitariste, puis après, au piano, ils sont hyper bons, à la batterie aussi.
Mais quel genre de morceau est-ce qu'on vous faisait jouer au conservatoire? Pas du Pink Floyd,
non,
j'imagine.
Non, alors j'ai travaillé pas mal de morceaux de Bach, que je continue d'ailleurs à jouer de temps en temps pour moi. Je sais que j'avais terminé par un joli morceau de Villa-Lobos. Quand j'ai décidé après d'arrêter, je me souviens, je travaillais ce morceau-là, je disais, bon, ben voilà, c'est certainement le dernier morceau que je vais travailler sérieusement. Après, bon, bah, voilà, parce que la guitare, c'est un boulot énorme, hein, bien évidemment, l'instrument.
Mais c'est intéressant, vous en avez retenu quoi, en fin de compte, de cet enseignement classique?
Bah, toujours pareil. Après, il y a toujours les parallèles, c'est-à-dire que il faut être patient, il faut pas vouloir aller trop vite. Et puis aussi, il y a une chose vraiment qu'on peut retrouver même dans l'écriture de sketch ou l'écriture de film, c'est les hauts et les bas. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un jour, on joue très très bien, on dit tiens putain, ce passage là, difficile, ça y est, je l'ai bien fait. Et le lendemain, on ne sait pas pourquoi, on rebloque sur autre chose. Donc, et c'est avec le temps qu'on arrive un petit peu à se libérer de tout ça. Ça vous apprend vraiment l'humilité par rapport au temps.
La rigueur aussi, j'ai l'impression à vous entendre.
Bien évidemment, la rigueur, ça c'est la base. Hein, on peut pas.
Vous diriez qu'il faut autant de rigueur pour être comédien que pour être musicien?
Ah oui, je pense, oui. Après, c'est une rigueur un petit peu différente. Par exemple, quand on joue au théâtre, il y a une rigueur même, bien évidemment aussi, de sportif. Hein. Faut vraiment être en forme pour pouvoir être au maximum. Et puis, il y a une rigueur, oui, par rapport à la voix. Faut travailler sa voix un petit peu.
En particulier lorsqu'il s'agit de faire rire, je suppose.
Non, dans tout, là. Dans tout. Bah, vous savez, quand vous avez des vers aussi à jouer, dans Racine, ou même dans Molière, Molière, c'est un petit peu plus... On peut plus parler, mais il y a intérêt de bien travailler sa diction, parce que là, quand même, quand vous faites un pâté, ça s'écoute, ça s'entend très vite. Ouais, j'ai des souvenirs comme ça de mon conservatoire. Hein. Mais bon, voilà, mais c'est vrai, il y a une rigueur, il y a rien à faire.
Mais c'était dans votre nature de bourdon d'être aussi rigoureux, Didier? Ou c'est quelque chose qui vous a été imposé par
non,
la force
je
des
pense
choses?
Que c'est une, ça, je pense que beaucoup d'artistes vous le diront, c'est quand on est un peu perfectionniste, bien évidemment, on a envie d'être à la hauteur, et donc, la rigueur vous permet de l'être. Rigueur, il faut c'est du travail, c'est aussi un plaisir de travailler.
Je vous pose la question, parce que vous dites souvent que vous êtes un rêveur.
Oui, mais l'un n'est pas du tout incompatible
c'est
avec
vrai
l'autre.
On peut être rêveur et rigoureux.
Ah oui, vous savez, dans une journée, il y a 24 heures. Oui. D'ailleurs, non, mais quand vous dites ça, en plus, je vais vous dire franchement, la rigueur vous permet de rêver. Par exemple, quand vous jouez un rôle, ou quand vous interprétez même à la guitare, mais ça, j'ai pas été assez haut niveau pour le préciser, mais c'est que quand vous avez vraiment votre texte en bouche, et ben là vous pouvez rêver sur scène en essayant quelque chose de nouveau. C'est pas vraiment du rêve, mais c'est quelque part, oui, c'est quand même pas loin du rêve. C'est-à-dire que d'un seul coup vous oubliez cette rigueur, vous l'avez déjà, et là d'un seul coup vous pouvez improviser dans l'interprétation, en disant les mêmes mots, hein, mais vous pouvez le faire de manière différente. Et la rigueur vous apporte ça. Et même, je pense que les grands musiciens, je pense à Pat Metheny, puisqu'on parle de guitare, le type, il peut rêver sur sa guitare, parce qu'il domine tellement son sujet que...
Et moi, je pense aux poètes, parce que ce sont par les strophes d'un poète que vous avez souhaité nous lire ce matin, qu'on va terminer cette émission. C'est Paul Valéry, ce poème qui s'appelle Palme. J'aimerais que vous nous les fassiez entendre.
Alors, oui, on va faire... D'ailleurs, c'est marrant, parce que c'est tiré donc du recueil Charme, où il y a notamment le cimetière marin. Et ça va faire 100 ans qu'il a publié. C'est 1922. Je ne me souvenais plus. Oui, Palme, alors c'est joli parce que c'est quelque chose qui m'a toujours, je vais le faire avec toi, Augustin, de sa grâce redoutable voilant à peine l'éclat. Un ange met sur ma table le pain tendre, le lait plat. J'adore le lait plat, je sais pas pourquoi, je trouve ça génial. Il me fait de la paupière le signe d'une prière qui parle à ma vision. Calme, calme, reste calme. Connais le poids d'une palme portant sa profusion. Pour autant qu'elle se plie à l'abondance des biens, sa figure est accomplie. Ses fruits lourds sont ses liens. Admire comme elle vibre, et comme une lente fibre qui divise le moment, départage sans mystère, l'attirance de la terre et le poids du firmament. Et je vais finir par la petite strophe de la fin. Donc c'est sur cette palme qui prend son temps, c'est patience, patience, patience dans l'azur, Augustin. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr.
Oh, c'est super. C'est super de finir sur la patience, sur le temps, sur le rêve. Merci infiniment Didier Bourdon d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Permis de construire, de et avec Eric Fraticelli, Anne Consigny, Frédéric Bell, Simon Abkarian, sortira le 9 mars. Ça a été un petit peu décalé, on a le temps de s'y préparer tout de
oui,
suite.
Oui, alors en revanche, ouais. Il y a toujours Mes très chers enfants au cinéma.
C'est vrai.
Et qui marche très bien et que j'ai tourné avec Alexandra Leclerc. Ça fait 3 films que je fais avec elle, où je fais un duo assez... détonnant avec Josiane Balasco. Voilà.
Tout de suite les médias, Sonia De Villa et son instant M, juste après un autre permis de construire.
Je savoure mon blues de terrien. Je remets le courage à demain, c'est rien. Incendie volontaire, j'emmènerai rien plus loin. Je lance des adieux salutaires, je laisserai faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux, que je me regarde en face dans sa création. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer, un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire, mon destin, sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, j'fais juste un état des lieux. Partout y'a du sang sur les mains. Mais moi j'fais comme si c'était rien, c'est bien. On s'est dit, volontaire, qu'on irait bien plus loin. Je lançais des adieux salutaires, je laissais faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux, que je me regarde en face quand ça crève les cieux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer, un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire, mon destin, sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, j'fais juste un état des lieux.
Permis de construire, Hervé, 9h40 sur France Inter, Sonia De Villers, l'instant M. Ça va Sonia?
Ça va Augustin, ben à demain pour un nouveau boomerang.
À demain pour un nouvel
Salut,
instant
Augustin.
M.
Bye.